grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. France Inter se mobilise à l'occasion du Grenelle des violences conjugales. Aujourd'hui, à l'hôtel de Matignon, des violences conjugales qui peuvent mener à des tragédies sans une femme tuée par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Quels sont les mécanismes des violences conjugales? Des féminicides, ces meurtres et assassinats contre des femmes. Quelles sont les conséquences psychologiques de ces violences répétées? Quelles traces laissent ces traumatismes? Comment les surmonter? Quelle est la prise en charge de ces psychotraumatismes? Et que se passe-t-il dans la tête des assassins, meurtriers et agresseurs? Existe-t-il un profil type d'homme violent? Rappelons avec l'anthropologue Françoise Héritier que la violence intersexe est une spécificité humaine. Dans le règne animal, les mâles ne battent pas délibérément ni ne tuent les femelles de leur groupe. Selon l'ONU, dans le monde, un tiers de toutes les femmes qui ont eu une relation de couple ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire intime. Avec nous ce matin, trois psychiatres, Muriel Salmona, Aurore Saboureau et Philippe Breneau, et bien sûr, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. N'hésitez pas à témoigner ce matin au 01 45 24 7000. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
En attendant le retour de Christophe André, vous assurez les choses vues. Il sera notamment question de violences conjugales et de charge mentale.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Avec nous ce matin, trois invités. Bonjour Muriel Salmona.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et présidente et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Bonjour Aurore Saboureau.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, directrice du Centre Psychotrauma. Bonjour Philippe Breneau.
Bonjour Ali.
Psychiatre, anthropologue, spécialiste du couple, dernier ouvrage paru, Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Alors l'ONU définit la violence exercée à l'égard des femmes comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Muriel Salmona, les violences conjugales revêtent donc plusieurs formes, violences physiques, psychiques, émotionnelles, comportements tyranniques et dominateurs, voire féminicides.
Oui, dans, dans le pire des cas. Il ne faut pas oublier aussi les violences sexuelles qui sont un élément très important et extrêmement traumatisant. Et puis aussi tout ce qui est de l'ordre aussi de violences économiques, administratives, qui vont encore plus piéger les femmes. Et c'est cet ensemble de violences qui vont permettre une emprise et une mise sous soumission des femmes, et voire même une sorte d'esclavagisme, et qui peut faire que les femmes soient considérées comme des choses, et du coup, avec une intolérance totale à ce qu'elles partent, puisque la plupart des féminicides ont lieu lors de la séparation, au moment de l'annonce, lors de la séparation et en post-séparation.
Et Aurore Saboureau, il peut s'agir évidemment d'une combinaison de toutes ces violences.
Oui, de toute façon, c'est rare qu'il y ait seulement une violence physique. En général, ça commence par une violence psychologique, par une emprise, par exemple, quand on se marie tout feu, tout flamme, et quelques mois après le mariage, on demande à son épouse de ne plus travailler, par exemple. Hein, et là, ça commence. Là, il n'y a pas encore de violence physique, il y a seulement « je t'aime, je ne peux pas supporter que tu ailles ailleurs ».
Ça commence donc, comme ça, ça commence une violence conjugale.
Oui, puis très doucement.
Oui, et c'est une organisation pour vraiment mettre en place une dépendance pour briser l'autonomie de l'autre, la confiance de l'autre, son estime de soi, et l'avoir vraiment pour soi. Et puis l'avoir à disposition pour en faire ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, ça transforme en fait l'espace conjugal en une sorte de zone de non-droit où les droits de l'autre n'existent plus.
Alors quelquefois c'est aussi évident que ça, bien sûr. Quelquefois c'est plus subtil. C'est simplement, un homme. Ça existe chez les femmes, hein, mais on va dire quand même que c'est des hommes parce que c'est la plus grande fréquence. La volonté, le besoin de dominer pour se rassurer, pour avoir une importance soi-même. Et donc plus l'autre va être rendu inférieur, dépendant, plus on aura le sentiment d'être fort et puissant.
Une simple dispute est-elle déjà une violence conjugale, Philippe Breneau? Une dispute dans le couple, banale.
Alors on va dire bien sûr que non, parce que nous avons tous, on peut tous vivre des disputes. La dispute étant déjà, pourquoi pas, un échange d'opinions.
Le conflit n'est pas de la violence. Le
conflit arrêt, c'était discuter, hein, c'est évident. Par contre, il y a, tiens, vous m'amenez à en parler comme ça, il y a une dizaine d'années, parce que je vois essentiellement des couples, j'en avais vraiment assez de cette asymétrie qui sont les disputes et les violences qui sont quand même très très majoritairement masculines. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les violences ordinaires des hommes envers les femmes ». Ces violences ordinaires, elles font le lit de choses plus importantes, mais il n'y a pas de violence minime, je crois pas. Ensuite, la deuxième chose, dans cette asymétrie, on sera sûrement amené à en parler, vous disiez, il y a un instant, des hommes qui sont amenés pour se rassurer. Mais des femmes, pour se rassurer, vont pas tuer leur partenaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une asymétrie de la force physique, des moyens, de l'organisation sociétale, on va en parler, qui amène, et puis quelque chose, moi je le dis en tant qu'anthropologue, c'est la violence masculine est quand même un fruit de la domination masculine, mais qui est un fait qui n'est qu'humain. Quand Bourdieu écrit la domination masculine, il l'écrit en tant que sociologue, il n'en parle pas explicitement. Françoise Héritier le dit. Quand on voit nous étions primates il y a 5 millions d'années, il n'y a aucune violence conjugale pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de couple. Mais lorsque dans l'humanité va s'instaurer le couple, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement par le grand problème peut-être de l'humanité, c'est à qui appartient l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une appropriation des femmes en tant que génitrices et qui vont amener des dérives. Tout un tas de dérives, ça en fait partie. Mais cette asymétrie, elle est aussi vieille que l'humanité, très malheureusement.
Aurore Saboureau.
Oui, ça me fait sourire parce qu'effectivement, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser à la violence si on ne comprend pas l'histoire, on ne sait pas comment les rapports se sont mis en place. Et comme c'est vieux. Mais il y a une époque, peut-être paradisiaque, où les hommes et les femmes étaient en bonne relation et qu'il n'y avait pas de pouvoir et que ça se partageait tout simplement.
Muriel Salmona.
Ce qui est sûr, c'est que les violences s'exercent toujours, et toutes les formes de violences, dans un contexte d'inégalité, et que plus les inégalités sont importantes, plus les violences peuvent s'exercer, et qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, les femmes qui subissent le plus de violences, ce sont les femmes les plus vulnérables. Les personnes handicapées subissent 4 fois plus de violences. Les femmes les plus jeunes, par rapport à des hommes plus âgés, subissent beaucoup plus de violences, mais aussi toutes les personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit des vulnérabilités économiques, des femmes migrantes. Donc c'est toutes ces personnes-là auxquelles il faut penser.
Bonjour Julie Baudelot.
Bonjour.
Bienvenue, vous serez ce matin notre fil rouge, notre témoin fil rouge. Vous avez écrit « J'aimais le diable ». À l'adolescence, vous rencontrez un garçon, coup de foudre, c'était l'homme idéal. Oui. L'homme idéal qui s'est vite transformé en diable.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous, Julie.
En seconde, donc 15-16 ans, je tombe sous le charme d'un garçon qui se présentait comme charismatique, intelligent, beau. Enfin, il avait toutes les qualités apparentes. Et je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Je ne voyais en lui l'homme idéal, le père idéal. 6 ans après, nous avons eu un coup de foudre réciproque. La mise en couple a été du coup très rapide. Les premiers moments étaient vraiment idylliques. J'étais enfin avec l'homme que j'aimais. Mon nuage était rose. J'étais très bien. Et il était si amoureux de moi, enfin. Malheureusement, cette bulle rose s'est vite teintée de gris, de rouge, de noir. Et sa jalousie... au début, que je percevais comme bienveillante, s'est transformée en jalousie pathologique. Je ne pouvais rien faire sans lui, il ne pouvait rien faire sans moi. On vivait dans une bulle fermée, complètement amertique aux autres. Seul le couple existait. Et c'est comme ça que la violence s'est progressivement et perversement installée dans notre quotidien.
Vous dites perversement, Julie, c'est-à-dire ?
Ça veut dire qu'on ne devient pas victime du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est très, très insidieux, très compliqué. La prise de conscience fait mal. C'est très difficile de se dire « je suis victime de l'homme que j'aime ». Donc on est dans la culpabilisation, on est dans le doute, on est dans le mélange émotionnel. On ne sait plus avec qui on vit. on ne sait plus si on aime ou on déteste, on ne sait pas si le comportement qu'on a est adapté ou pas, on essaye de répondre à ses demandes sans cesse, bref, on commence à être dans un énorme trouble, dans des doutes, dans des incertitudes, et on tombe progressivement dans la violence conjugale sans s'en rendre compte. Souvent, c'est la première claque s'il y a une violence physique qui fait qu'on se dit « mais ça, c'est pas normal ». Mais avant, il y a bien évidemment l'instauration d'un climat de tension, une marmite qui est prête à exploser tout le temps. Mmh. Mais la qualification de la violence et de l'état de victime prend énormément de temps. On est plutôt dans le vocabulaire de la souffrance, des pleurs, de la tristesse et de l'incompréhension.
Aurore Saboureau, sur le témoignage de Julie.
C'est classique, hein. C'est ce qu'on voit. En tant que psychiatre, je vois les gens qui sont partis de là et qui racontent cette histoire la plupart du temps. Et c'est toujours pareil, c'est exactement ça. Et je crois qu'il faudrait apprendre aux petites filles que les contes de fées n'existent pas et qu'il n'y a pas de prince charmant. Enfin, il faut arrêter là. Puisque vous voyez, dès le départ, c'est la personne parfaite. Où est-ce qu'une personne parfaite va rendre heureux une jeune femme imparfaite par définition ?
Muriel Salmona.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la mise en scène est assez parfaite. C'est-à-dire qu'ils jouent aux hommes parfaits et qu'on retrouve souvent chez les hommes violents tout un passé de violence et que le premier facteur de risque de commettre des violences, c'est d'en avoir déjà commis, voire d'en avoir aussi subi dans l'enfance et d'en avoir commis continuellement. Hein. C'est un continuum. Et puis, il faut voir aussi que la société n'aide pas forcément ces femmes-là avec une image de la passion, de la jalousie, où plus on est jaloux, plus on est amoureux, alors que ça n'a rien à voir. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut déconstruire. Et puis les troubles psychotraumatiques, ça on y reviendra certainement, mais qui vont entraîner une anesthésie émotionnelle, une dissociation avec l'emprise, qui vont rendre très très compliqué la prise de conscience de ce qui est en train de se passer.
Philippe Renaud.
Oui Julie, moi je trouve passionnant votre néologisme perversement, parce qu'il y a effectivement le mécanisme pervers qu'on connaît, qu'on décrit, comme ça vient d'être dit, qui survient toujours à peu près de la même façon, avec ce cycle de la violence dans lequel on rentre parce qu'on est il y a l'amour, il y a l'attachement qui va permettre cette emprise, et puis c'est lune de miel réciproque, c'est-à-dire qu'il y a le versement. Tout d'un coup, ça bascule. Mais je me rends compte que je l'aime et qu'il m'aime. Et en définitive, on repart là-dedans et c'est un cycle infernal qu'on va essayer d'interrompre.
Le mécanisme pervers, c'est aussi de faire croire à la victime qu'elle est imparfaite et que si elle était parfaite, on l'aimerait vraiment comme il faut l'aimer. Et donc, c'est la culpabiliser et la mettre dans cette infériorité qui fait qu'elle va en faire toujours un petit peu plus pour essayer de prouver à l'autre qu'il s'aime tant que ça.
Intervention de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, allez, on peut peut-être dire à nos auditeurs et principalement, évidemment, nos auditrices, il y a un outil tout simple qui s'appelle le violentomètre qui est disponible sur le site du centre Hubertine Auclair. En fait, c'est un baromètre qui va du vert au rouge et qui permet d'identifier des comportements, d'évaluer la dangerosité du conjoint. Aurore Saboureau en parlait tout à l'heure, l'isolement, ne travaille plus, reste à la maison, l'homme qui menace de se suicider, des humiliations constantes. Et on voit avec un certain nombre de termes qui sont simplement émis sur ce petit baromètre, où on se trouve, est-ce qu'on est dans la case rouge, dans la case orange, dans la case verte ? Et c'est un outil premier, mais je crois qu'il est vraiment très utile, il faut le dire aux femmes, le violentomètre.
Et on peut également donner ce numéro de téléphone, le 39 19, quand on subit des violences conjugales. Muriel Salmona, 39 19.
39 19, donc c'est vraiment, ça permet d'avoir de nombreuses infos, d'avoir aussi des possibilités d'adresse où aller, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi aux femmes, c'est en situation où elles se perçoivent en danger, elles se sentent en danger, c'est pas le 39 19, hein, c'est directement le 17, c'est la police, c'est ce qui permet quand même une intervention immédiate.
Julie, vous restez avec nous, hein. Vous nous direz tout à l'heure ce qui vous a aidé dans cette période noire de votre vie. Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur le site et l'appli de France Inter, ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Mario et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Tout d'un coup, où la tête comprend tout, le cœur se remet debout.
France Gall, tout le monde chante.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h23, France Inter se mobilise à l'occasion du Grenelle des violences conjugales. Quels sont les mécanismes de cette violence? Comment surmonter ces psychotraumatismes? Quelle est la prise en charge? 01 45 24 7000.
Je suis quoi pour toi? Je peux pas te joindre. Tu changes de numéro tout le temps, t'es jamais là, tu me fuis. Je suis devenu quoi pour toi? Je suis qui?
Je vais pas discuter avec toi là, parce que c'est pour entendre les mêmes trucs que d'habitude.
Si tu vas discuter avec moi parce qu'on a fait deux gosses, tu peux pas disparaître comme ça, ça me fait du mal, tu sais très bien que tu me fais du mal.
Faut que tu te soignes, Antoine.
C'est qui pour me dire ça? C'est à toi de te faire soigner, je te signale.
Myriam,
j'arrive.
C'est qui lui?
Mon gâteau.
C'est un ami de ma sœur. Oui, j'arrive.
Qu'est-ce qu'il fout l'anniversaire de ma fille?
La joie.
C'est qui? Qui c'est ce type?
Arrête, Antoine.
Tu baises avec lui, c'est ça? Tu l'as baisé, c'est ça?
Arrête, Antoine.
Arrête,
Antoine.
On discute.
Myriam,
on discute.
Que la laisse. Tiens-toi, sinon j'appelle les flics, connard. Ça y est, il est parti, l'autre gros con. Il t'a frappé.
Ça va.
Mais demain, tu portes plainte.
Ça servira à quoi?
Si j'irai avec toi. Ça a trop duré, là.
Extrait du film Jusqu'à la garde, en 2017. Muriel Salmona, un commentaire, une réaction sur cet extrait?
Oui, alors, ça montre bien tout ce système dans lequel est prisonnière la femme, avec toute une culpabilisation, toute une mise en cause, une coercition. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle a rien droit de faire, de penser, etc. Et tout est prétexte. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que du coup, les femmes souvent perdent beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi il me dit ça, mais pourquoi il pense ça, alors qu'en fait, tout est prétexte pour asseoir une domination et mettre en place une soumission.
Aurore Sabourot.
Oui, c'est souvent les femmes disent pourquoi il est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour qu'il soit comme ça. C'est j'ai pas fait assez bien. Mais en fait, non, c'est stop, fuyons, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est inacceptable. Et d'ailleurs, même quand on sait que c'est un film et qu'on l'entend, même en l'entendant, ça fait du mal.
Philippe Brenon.
Et puis dans cette scène, que je crois que le scénariste montre bien, ils font monter la tension, et qu'est-ce qui monte? C'est la voix de l'homme, c'est les cris, c'est la violence, c'est-à-dire cette asymétrie de la force même vocale. Le nombre de femmes qui disent « je supporte pas quand il prend sa grosse voix ». Et sa grosse voix, on a tous entendu ça, ça pouvait être même à l'extrême, la sidération de la voix du père. Mais en tout cas, ça permet d'immobiliser cette sidération. À ce moment-là, la puissance est d'un côté.
Sandrine nous dit par courriel « Ma mère vit depuis 52 ans avec un homme qui la harcèle et la rabaisse au quotidien. Bien sûr, ce ne sont pas des coups, mais la souffrance est là. Elle a 71 ans et souffre de troubles de la mémoire, certainement liés à cette maltraitance. Mon père continue à lui faire vivre un enfer et d'après ce qu'elle me dit, il la secoue régulièrement et l'insulte. Elle n'a jamais voulu partir. Moi, je suis partie à 18 ans. J'ai appelé le numéro des violences faites aux femmes. J'en ai parlé avec un psychologue et tout le monde me dit qu'on ne peut rien faire si ma mère ne veut pas partir. Et de nombreux messages qui nous demandent pourquoi les femmes violentées ne quittent-elles pas leur conjoint violent, Muriel Salmona.
Alors, la première cause, quand même, qu'il faut jamais oublier, c'est les menaces de mort.
La peur des représailles.
La peur des représailles, ça, c'est quand même une réalité. Et ça, il faut vraiment l'évaluer.
Et on a du mal souvent à évaluer. Quand elles sont jeunes, sur les enfants. Voilà. C'est-à-dire des menaces sur les enfants. Voilà. En ce cas, très violent et très fort.
Voilà. Donc, tout ça, c'est un élément premier. Et puis, la deuxième, c'est les troubles psychotraumatiques. C'est-à-dire que la violence a un pouvoir d'emprise extrême. Génère effectivement des phénomènes de sidération et ensuite de dissociation. C'est le cerveau qui met en place une stratégie pour supporter et pour survivre à un stress extrême. Et ça entraîne ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle, une déconnexion émotionnelle qui fait que les femmes vont avoir une sorte de pseudo-tolérance. Elles sont anesthésiées, donc elles ont une pseudo-tolérance. Elles sont dépossédées de leur capacité à analyser le niveau de stress, de douleur. Et c'est pas qu'elle, c'est-à-dire que les gens autour, souvent sont contaminés par cette dissociation et ne ressentent pas le danger dans lequel elles vivent.
Et puis il y a une réalité, c'est qu'il y a un problème social, c'est qu'en général elles n'ont pas travaillé, elles n'ont pas d'argent, et si elles partent, où vont-elles?
Et puis il y a cet espoir fou que le conjoint puisse changer.
Oui, parce qu'il le dit tout le temps. Mais je vais changer, je vais changer. Et si tu fais ça, si tu fais comme ça, tu vas voir, ça va aller mieux. Il est tout le temps en train d'intoxiquer, de coloniser le cerveau de la victime.
Aurélia Schneider, psychiatre.
Il y a aussi ce qu'on trouve beaucoup, c'est les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que rien ne va jamais. Tu dois faire ceci, elle fait, Et en fait, ça ne va jamais. Ça n'est jamais assez, ça n'est jamais suffisant.
Parce que donc, c'est toujours un prétexte
le système
pour
s'auto-alimenter.
Et violenter, bien sûr.
Marie-Laure Zonchain, de Femmes Actuelles.
Oui, alors on parlait des femmes qui... Enfin, vous parliez de ces témoignages en disant mais pourquoi les femmes ne s'en vont pas? Mais les victimes disent aussi mais pourquoi ça n'est pas lui qui part?
Exactement.
Alors, effectivement, le procureur peut prendre une ordonnance d'éloignement du conjoint. C'est une possibilité, c'est pas systématique. Et beaucoup de ces femmes, ou malheureusement de leurs proches quand la victime n'est plus de ce monde, disent je ne comprends pas pourquoi c'était à elle de faire ses valises avec les enfants sous le bras et de quitter le domicile.
Mais alors ça, c'est vraiment dans les situations de danger, justement, quand il commence à y avoir des plaintes, etc. Effectivement, ça, c'est ce qu'on demande, c'est que ce soit le conjoint qui soit évincé, et c'est pas à la femme de tout perdre. Mais le problème, c'est qu'avant d'arriver à cette situation-là, il y a une situation qui s'installe, et le seul moyen, faut pas attendre que les femmes parlent, que les femmes portent plainte, que les femmes appellent au secours. Il faut vraiment aller vers elles et poser systématiquement la question. C'est-à-dire que à subir des violences, c'est ça porte atteinte au droit, à l'intégrité physique et mentale des personnes. C'est un problème de santé publique majeur. Il faut que tous les professionnels fassent un dépistage systématique et posent systématiquement la question. Quand on voit qu'il y a plus de 220 000 femmes par an qui subissent des violences conjugales, plus les enfants, il faut qu'il y ait ce dépistage.
Et c'est très vrai que les professionnels, malheureusement, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes ne sont pas formés à ça. C'est-à-dire à poser des questions très directes. Alors, ils le sont plus aujourd'hui. Mmh. C'est vrai. Mais regardez dans l'écoute bienveillante. C'est une deuxième peine. Cette personne ne va pas être écoutée. Et il y a des choses très précises à faire. On le sait aujourd'hui.
Par exemple,
il y a des formations.
Par exemple, ne pas avoir le même médecin traitant que son mari. Par exemple, c'est une des choses. Moi, je le vois au quotidien. Le médecin traitant va banaliser, va écouter la voix la plus forte. Donc déjà, pas prendre le même médecin.
Julie, vous êtes restée avec nous. Vous êtes notre témoin fil rouge ce matin. Vous avez donc subi, il y a quelque temps, des violences de la part de votre ex-conjoint. Est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à le quitter?
Ah oui. Je pourrais vous donner la date de notre mise en couple, mais il est impossible pour moi de vous dire quand notre relation s'est terminée. Parce que la séparation physique ne suffit pas à l'élimination de l'emprise. La violence psychologique perdure. L'homme ne supporte pas de perdre sa femme et il va mettre en place beaucoup de stratégies pour la récupérer. Le harcèlement, j'étais à peu près à 150 appels téléphoniques par jour.
150.
La culpabilisation, les menaces, le chantage et aussi le violon, les promesses de changement, les déclarations d'amour. Donc, si vous voulez, les stratégies perdurent lorsque la victime décide de partir. Et j'étais bien dans ce cas-là. Ce qui fait qu'il a arrêté clairement de m'embêter, entre guillemets, c'est le dépôt de plainte. J'ai eu une chance, c'est de tomber sur un policier formé et bienveillant. Et je le remercie parce qu'il a été très important dans mon parcours, ce qui n'est pas le cas malheureusement de toutes les femmes qui sont dans un désir de dépôt de plainte. Et lors de sa convocation au commissariat, c'est le jour où lui a arrêté de me harceler, lui a arrêté d'essayer de me posséder ou de me récupérer.
Aurore Saboureau.
Oui, c'est vrai qu'utiliser la loi est la première chose à faire et c'est quelque part un garant, mais ça ne marche pas toujours. Il y a des hommes violents, et pas forcément dans l'extrême perversité, mais qui sont capables de ne pas écouter, de ne pas respecter la loi, et de continuer. Je me souviens, j'ai une patiente, son mari peut aller dans les restaurants où elle va avec sa fille, pour être juste à côté. Il peut dire à l'éducateur, mais elle vit avec moi, c'est-à-dire nier, alors que ça n'existe pas, dire, mais elle est toujours amoureuse de moi, et elle vient toujours.
Existe-t-il un portrait type de l'agresseur, de l'homme violent, un portrait sociologique, psychologique? Qu'est-ce qu'on sait, Muriel Salmona?
Alors, ce qu'on sait, c'est que quand même, la grande majorité des hommes violents ont subi déjà des violences dans l'enfance. C'est-à-dire que subir des violences physiques et sexuelles, être témoin de violences conjugales, ça multiplie par 14 le risque de commettre des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Et le fait, plus les hommes exercent des violences dans différentes situations, plus ils risquent d'être violents. Alors, s'ils ont déjà exercé des violences conjugales avec d'autres femmes, depuis l'adolescence par exemple, mais c'est aussi s'ils exercent des violences dans le cadre de leur métier, dans le cadre de la guerre. On sait que après des situations de guerre, il y a beaucoup plus de violences, et le fil rouge, c'est le trauma. C'est le fait d'avoir une mémoire traumatique de toutes les violences qu'on a subies, qu'on va traiter en fait, et qu'on va éliminer en quelque sorte, en exerçant des violences sur l'autre, comme en l'instrumentalisant.
Il n'y a pas que la violence violente, c'est-à-dire physique, celle qu'on va voir et celle qui peut tuer. Il y a aussi la violence insidieuse, la violence dans les relations. J'avais lu le silence, par exemple, la bouderie, ce sont des types de violences, les petites piques à table, et puis qui sont des choses difficiles et qui sont dans l'éducation après des enfants, dans le modèle qu'on donne, des choses qui vont dans lesquelles les enfants vont avoir beaucoup de mal et vont ressentir cette peur. En fait, dans la violence, ce qui pose un problème, notamment au cerveau et dans les relations, c'est la peur que ça provoque. La peur et l'instabilité émotionnelle. Le fait qu'on ne sait jamais à quel moment on peut se détendre, à quel moment on peut être joyeux, parce qu'à chaque fois, ce moment-là va être gâché par une réflexion, par un geste, par une bouderie, par « je claque la porte ». Et d'ailleurs, ça, il faut le reconnaître, ça peut être produit par des femmes aussi. Mmh. C'est pas seulement des hommes.
Hein. Alors, il existe des périodes à risque dans la survenue des violences conjugales. Je pense aux séparations.
Il y a la séparation, il y a la grossesse. 40% des violences conjugales démarrent au moment de la grossesse. Pour deux raisons. Pourquoi? D'abord parce que ça rend la femme plus vulnérable, donc elle est plus à disposition, et on va pouvoir plus exercer de coercition sur elle. Et plus il y a de coercition, plus il y a de violence. C'est une drogue, la violence. Et elle monte, il y a une sorte de d'augmentation de l'intensité. Et puis aussi parce que, à partir de la première grossesse, on bascule de la notion de couple à la notion de famille. Et si ces hommes ont été dans un univers familial violent, c'est cette violence familiale qui leur remonte et qu'ils peuvent reproduire.
Oui, c'est aussi, on est à trois et plus à deux, il y a une responsabilité, en général, ces hommes ont une certaine immaturité, une instabilité émotionnelle, et ce qui est nécessaire pour supporter les cris des enfants, par exemple, ou les demandes, l'attente de la femme en grossesse, qui est quand même un peu en difficulté, c'est pas le terme, mais émotionnellement un petit peu différente, c'est quelque chose qui est insupportable pour un homme immature.
Et Céline nous demande quel est le rôle de l'alcool, des psychotropes, des médicaments dans la survenue des violences conjugales.
C'est une conséquence. Hein. L'alcool n'est pas à l'origine. Les gens qui sont traumatisés traitent souvent leur traumatisme par des conduites addictives qui les anesthésient, donc qui permettent d'échapper à une douleur intolérable. Et du coup, alors ça peut effectivement libérer un petit peu plus de comportements violents, mais ce n'est pas du tout à l'origine de la violence, c'est une conséquence.
C'est une conséquence, effectivement, l'alcoolisme pour se guérir, mais c'est aussi une cause de violence. Ça l'augmente énormément, et socialement, et en la famille. Ça libère les émotions, ça désinhibe. Donc, effectivement, les hommes ne peuvent pas se contrôler.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de la psychiatre Aurélia Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues d'Aurélia Schneider.
Alors, comment surmonter les violences conjugales en 3 minutes 30? C'est dur avec moi, cher Ali.
Oui, je sais.
Le cœur du problème, c'est pourquoi les femmes, car ce sont surtout elles qui sont concernées, ne peuvent pas quitter l'enfer d'une situation monstrueuse. Le premier moteur de cette inhibition, c'est l'incompréhension. Aggravée par notre ignorance, comme on l'a dit, dans le domaine des violences conjugales, on ne peut pas croire que ce conjoint qui nous aime tant, et c'est réciproque, nous fasse du mal. On ne réalise pas que la première insulte, humiliation ou menace, puis le premier coup, c'est déjà trop. On banalise, ce n'est pas grand-chose. Et on lui trouve toujours une excuse rationnelle. La fatigue, son travail, la prise d'alcool, son enfance difficile. Le carburant, c'est l'oubli à mesure des événements. Dès qu'il y a reprise de l'intimité, après quelques mots gentils, hop, disparition comme par magie du problème. Retour de l'espoir que tout redevienne comme avant. Puis lorsque la conscience de l'agression s'installe, la culpabilité aussi. Je dois rester, je me suis engagée pour les enfants. Puis c'est le doute. Je ne fais peut-être pas assez bien. Le prédateur en rajoute, affaiblit et isole sa victime. Elle se protège en s'auto-anesthésiant émotionnellement lorsqu'elle est maltraitée. Puis le jour vient où elle veut enfin se dégager et c'est la peur. La honte, le silence, la peur des représailles, la peur de ne pas arriver à surmonter les nombreux obstacles engendrés par un départ, la précarité, la peur pour les enfants, honte d'aller porter plainte, d'être jugé faible. Et puis à quoi ça va servir? D'être rejeté par la famille, la société, car évidemment, pas de tiers témoin de ces agressions. Ce conjoint souriant et sociable donne le change. Alors il faut savoir impérativement que la moindre violence est inacceptable, qu'il faut agir le plus vite possible. Parler aux autres, aux amis, à la famille, se faire aider, solliciter les associations, les numéros d'urgence. Qu'il est vital d'écrire quelque part toutes les violences subies au jour le jour afin de ne pas oublier et d'avoir un document précis au niveau de la loi. que toutes ces catégories socio-professionnelles, race, religion, sont concernées. Que d'avoir été témoin de violence au sein de sa propre famille pendant l'enfance multiplie le risque de croire que c'est normal, car on ne sait pas où se trouve la limite. Et qu'il n'est jamais trop tard pour s'en sortir, qu'il faut savoir que l'on ne pourra pas soigner cet agresseur, et qu'il est toujours possible de passer du terrible statut de victime à celui d'héroïne et de femme libre. D'un point de vue sociétal, rêvons un peu, qu'on arrête enfin de croire que les cris qu'on entend ne regardent que ce couple et que nous sommes tous concernés, que les agresseurs soient obligés de quitter le foyer et non les agressés, qu'une loi interdirait de taper sur son conjoint, tout comme il est maintenant interdit de frapper son enfant. Qu'on détricoterait la domination masculine en luttant contre les stéréotypes genrés dès la maternelle, en instruisant les filles et les garçons sur un mode égalitaire, en informant les élèves, comme on le fait pour la pédophilie, dans les cours d'enseignement moral et civique. Et enfin, pourquoi ne pas dynamiter le chapitre mariage de notre vieux code civil napoléonien ? Parce que quand on prend la peine de se pencher sur les textes fondateurs de notre société, certains passages archaïques font froid dans le dos. Imaginons une refonte dans laquelle il y aurait des précisions, des évidences qui seraient clairement énoncées. Un exemple. Ce vieil article 212, pourtant revu en 2006, sur les droits et devoirs des époux, stipule qu'ils se doivent mutuellement le respect, entre guillemets. Sa définition est tout simplement laissée à la libre appréciation de chacun. C'est insuffisant. Certes, en 70, la puissance paternelle a été abolie, le père n'est plus chef de famille. Mais il faut aller plus loin, les temps ont changé. Tiens, pour commencer, on pourrait enlever les termes « mari et femme ». Et on les remplacerait par partenaires. Qu'en pensez-vous, cher Ali ?
Je suis totalement d'accord avec vous, docteur Aurélia Schneider. Une petite précision, Muriel Salmona.
Oui, du coup, exercer des violences sur son conjoint, c'est non seulement interdit, quelles que soient les violences, même alors, bien entendu, toutes les violences dont on a parlé, violences psychologiques, mais aussi les violences économiques maintenant, et c'est une circonstance aggravante. Tout comme l'alcool est une circonstance aggravante pour l'auteur des violences. Et aussi, si la personne elle-même est sous alcool.
Alors, Aurélia l'a soulevé, c'est tellement difficile de faire la preuve de ce qu'on subit, puisque c'est dans l'intimité et le secret. Il faut que ce soit dès l'école, ça, qu'on doit apprendre que chaque personne est identique et a des droits, et qu'il faut apprendre le respect, identique peut-être pas, mais a des droits identiques.
Oui,
et le respect, et de vivre ensemble, enfin, c'est vraiment...
Et arrêter de raconter des contes de fées qu'on évoque, on est tous d'accord, va d'abord enseigner la première réaction d'une femme, c'est « je suis coupable ». Mais c'est la société qui lui a appris.
C'est la société, c'est l'école,
l'infériorisation, l'éducation a beaucoup changé, elle n'a pas trop changé dans cette mesure-là, et puis il faudrait en parler plus largement, c'est quand même la société qui n'instruit pas aux différences. On ne veut plus les accepter. Et ça pose un gros problème.
Les choses vues d'Aurélia Schneider à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bain Vous Fasse. Retour de notre ami Christophe André, mardi prochain. Dans quelques instants, on s'intéresse à la question des féminicides, ainsi qu'au psychotraumatisme des violences conjugales. 01 45 24 7000.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy. Des gens qui rient, ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière, I'm 50s, I'm 50s, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats. Dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie, en arrond de plein ciel, qui rentre à Paris. I'm 50. I'm première. Personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral. Y'a un coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard. I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille. Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise. Dans un verre de gin fizz, une légère brise.
Le tout nouveau et très beau titre d'Alain Souchon, Am 50s, c'est son premier titre depuis son dernier album il y a 11 ans.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h45, France Inter se mobilise à l'occasion du Grenelle des violences conjugales. Quels sont les mécanismes de ces violences? Comment surmonter ces psychotraumatismes? 01 45 24 7000.
Ma fille de 6 ans, c'est elle qui m'a sauvée. C'est elle qui a composé le numéro de la police, parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Ils l'ont embarqué, ils m'ont dit, vous portez plainte? J'ai dit, bah non, je l'aime trop. J'ai dit, entre l'amour et l'emprise, même aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire. Et je me dis que... N'importe qui, même avec le plus gros caractère au monde, on peut tous se faire avoir. On nous prend pour des femmes faibles. Mais on n'est pas du tout faibles. Parce que pour réussir à tenir son bourreau chez soi et fermer notre bouche et avoir la façade devant nos enfants et sourire et les endormir le soir, bisous mon amour, je t'aime, et leur faire croire qu'on a passé une belle journée. Mais finalement, on est mille fois plus forte que tout ce que les gens peuvent aller raconter.
Extrait d'un reportage de François Normandie en 2009, encore d'actualité. Est-ce qu'on peut dire 2019, pardon, et qui est plus que jamais d'actualité, peut-on dire une bonne fois pour toutes que les femmes qui subissent les violences conjugales ne sont pas des femmes faibles? Muriel Salmona, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Oui, non, ce sont pas des femmes faibles, c'est des femmes à qui on impose une infériorité. Enfin, c'est la société, dans le couple, et puis que l'on va rendre soumise par des processus d'emprise qui sont bien décrits et qui vont faire qu'il va y avoir une perte de repère, une perte de capacité, une perte de mémoire. On en parlait tout à l'heure, c'est la dissociation aussi qui est à l'origine de pertes de mémoire très importantes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment aller vers elle, parce qu'elle le dit bien qu'elle ne l'aurait pas fait, c'est sa fille de 6 ans qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde, et particulièrement les professionnels, s'en préoccupe.
Aurore Sabourot, psychiatre.
Moi, je dirais que c'est une femme qu'on trompe. On la trompe sur l'amour, sur la qualité de l'amour, sur la relation, sur ce qu'on doit attendre, ce que les femmes doivent faire, ce que les femmes doivent supporter pour avoir cette image de famille, ce qu'elles doivent faire pour protéger les enfants. Entre parenthèses, ça ne protège pas les enfants. Mmh. Les enfants sont les victimes premières et tout autant que les femmes de la violence conjugale.
Tiens, Roger, bonjour Roger.
Bonjour.
Vous avez été traumatisé, vous nous l'avez dit hors antenne, oui. Par les violences conjugales qu'a subi votre mère de la part de votre beau-père.
Oui. Alors je rappelle, bonjour à tout le monde et bravo pour cette émission. Je pense que faire écho, c'est très très bien. J'ai 66 ans et je suis toujours submergé par des émotions de violence que j'ai subies quand j'avais 8 ans. Et c'est important de dire aux gens que c'est un truc qui vous reste et qui vous colle à la peau. Enfin, moi, ça me colle à la peau maintenant. Et en vieillissant, en plus, je crois que ces émotions, elles ont tendance à être un peu surmultipliées. Moi, je suis un peu submergé. Je disais à votre la personne qui m'a appelé, que je ne supporte pas les situations de violence, qu'elles soient faites à des enfants, enfin à des êtres plus faibles, que ça soit fait à des animaux aussi. Et c'est une chose que, à mon âge, on pourrait dire, voilà, tu es grand, tu es adulte, et ben je ne supporte pas.
Qu'a subi votre mère, Roger? Qu'avait subi votre mère? Qu'avait subi votre mère?
Subi les violences d'une personne qui était d'abord alcoolique, violente. C'était quelqu'un de très très fort qui avait été traumatisé par la guerre d'Algérie et qui se faisait casser la gueule. Et moi également. Et dans ce trio infernal, j'étais aussi frappé par ma mère adoptive, quoi. Mmh. Et il faut dire aux gens, il faut leur dire que c'est très facile de dire oui, tu pourrais, on peut s'échapper. Non, il y a une espèce d'emprise, comme vous le dites bien, les personnes me disent bien, il y a une espèce d'emprise démoniaque, il y a une espèce de c'est un enfer qu'on vit. Et la mère en partie aussi vit un enfer qui on peut pas comme ça. Bon, moi je vous parle, c'était en plus dans les années 60, hein, c'était encore très ancien. Et le fait d'en parler maintenant, c'est effectivement bien, mais on s'aperçoit que c'est pas facile. C'est un espèce de lien qui est très très compliqué, très complexe à.
Aurore Sabourin. Voilà.
Oui, Roger a parfaitement raison, hein, de nous rappeler que les victimes sont aussi les enfants. D'abord, ils sont en construction au niveau neuronal, donc ça, la peur va provoquer. Mais moi, j'ai fait une petite étude comme ça personnelle sur mes patients que je vois à mon cabinet avant d'être répertorié comme quelqu'un qui s'occupe de la violence, bien sûr. Eh bien, 75% des patients qui viennent pour des troubles anxieux, pour des troubles dépressifs, voire de l'hypochondrie, banal pour aller pour un psychiatre, 75% ont une histoire de violence familiale dont au départ il faut, d'ailleurs qu'il faut questionner, parce qu'en général ils disent non, c'était une bonne famille. Quand on rentre dans les détails, non, la famille était violente psychologiquement, éducativement.
Muriel Salmona.
C'est d'ailleurs les chiffres qui ressortent actuellement de 70% de la psychiatrie qui serait alors
c'est lié à la violence.
C'est lié à la violence. Et de voir que là, ce dont le témoin parle, c'est vraiment des troubles psychotraumatiques.
Qu'est-ce que c'est qu'un psychotraumatisme d'ailleurs, Muriel Salmona?
C'est des conséquences à la fois neuropsychologiques liées aux violences, avec particulièrement des réminiscences, qu'on peut appeler aussi la mémoire traumatique, des souvenirs qui reviennent hanter à l'identique, comme si on était de nouveau dans l'événement, avec vraiment une souffrance très importante, telle qu'il faut essayer d'y échapper.
Merci à Roger de nous avoir appelé. Qu'est-ce qu'on observe lors d'IRM cérébral après un psychotraumatisme, Muriel Salmona? Il se passe quoi dans le cerveau?
Dans le cerveau, il y a des atteintes neurologiques très importantes, hein, de structures du cerveau essentielles, comme l'hippocampe, et puis aussi au niveau des dendrites, de la connexion des neurones, et aussi des circuits émotionnels et de la mémoire.
On peut dire que le cerveau disjoncte?
Oui, on peut dire que le cerveau disjoncte et des structures très importantes comme l'hippocampe, qui sont à l'origine de la mémoire, de l'apprentissage, peuvent perdre jusqu'à 30% de leur volume quand les violences ont lieu dans l'enfance. Et l'amygdale cérébrale, elle, qui est une structure émotionnelle, est hyper active et c'est elle qui va continuellement flamber aussitôt qu'un lien rappelle les violences. Et les gens vont passer soit des émotions très fortes, soit de périodes complètement déconnectées, dissociées.
Pour être plus simple et pour clarifier, le cerveau, nous sommes programmés pour avoir... On a une émotion, la principale émotion, c'est la peur. Et elle nous aide à nous sauver, à la survie. C'est l'émotion principale pour survivre. Et notre cerveau, dès la naissance, est programmé là-dessus. Et tous les organes qui reçoivent la peur, comme l'amygdale par exemple, vont, dans le cas de violence, vont surchauffer et donc vont laisser une trace dans le cerveau d'une activité beaucoup plus aiguë que normale et surtout ne vont pas s'apaiser.
Quelles sont les conséquences de ces psychotraumatismes?
Alors, les conséquences sont très importantes. Alors, d'abord, la souffrance, mais aussi des dépressions. Dans 50% des cas, il y a des dépressions, des troubles anxieux, très importants, des troubles des conduites addictives, hein, des troubles alimentaires, mais aussi des conduites à risque, des risques suicidaires, très importants. Ça peut être une des premières causes de mortalité, de mortalité précoce. Et puis aussi des troubles cardiovasculaires, c'est-à-dire que le trauma a des conséquences physiques très très importantes sur la santé, avec des troubles immunitaires, sur l'immunité, sur le niveau pulmonaire, et puis pour les femmes aussi, tout ce qui est gynéco-obstétrique. Il faut savoir que la violence pendant la grossesse a un impact extrêmement important sur le fœtus, sur la santé de la femme, et toutes ces conséquences-là peuvent être à très long terme. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que toutes ces conséquences sont graves, mais sont évitables si on protège la victime et si on la prend en charge.
Philippe Brenneau.
Mais Roger nous dit aussi une chose, c'est que malgré son âge, malgré son intelligence de la chose, il comprend, le psychotrauma ne s'arrête pas comme ça.
Non, la réaction à l'émotion est toujours présente.
Alors,
de la même
on
façon.
A effectivement quelque chose n'est difficile que parce que ça rappelle quelque chose. Et les émotions, ou du moins les événements ne sont stockés parce qu'ils sont liés à une émotion.
Voilà,
et
après,
on va se trouver effectivement handicapé toute la vie. Ça va être des victimes qui vont être à nouveau persécutées. Et il dit combien, lui, dans sa situation bien comprise, il a quand même, des décennies après, autant de mal à vivre.
Bonjour Corinne.
Bonjour.
Bonjour Corinne, bienvenue dans l'émission, bienvenue. Vous avez été victime de violences conjugales. Racontez-nous votre histoire, Corinne.
Alors, je vais essayer d'être très brève, hein, parce que, bon, à chaque fois, les histoires sont assez longues quand on part dans les détails. Mais, voilà, donc moi, c'est comme ça a été dit, les violences ont commencé alors que j'allais accoucher de notre premier enfant. Et ensuite, on a essayé de trouver une solution, tous les deux. C'est-à-dire que je lui ai demandé d'aller voir quelqu'un pour pouvoir l'aider dans ses violences. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a eu deux personnes, ça n'a pas accroché, ça n'allait pas du tout, enfin ça correspondait pas à ses attentes. Et finalement, il a réussi à trouver un psychothérapeute qui lui permet de trouver une solution à ses violences qui seraient caractérisées par une colère, qui serait colérique. Maintenant, tout à l'heure, j'étais un peu effrayée de savoir, enfin d'entendre vos intervenants dire que de toute façon, pour les personnes violentes, il n'y avait pas de solution en fait. Qu'une fois qu'elle était violente avec sa conjointe, c'était fini quoi. C'était la séparation et pas d'autre solution que la séparation.
Précision peut-être.
Oui, je peux faire une précision. C'est Muriel Salmona. Je peux faire une précision. Non, bien entendu. Alors après, tout dépend de la durée où la violence s'est exercée, de l'ensemble des violences qui ont été exercées par la personne violente. Mais il peut y avoir une prise en charge qui peut être très efficace. Voilà, j'ai plein de situations.
J'ai tendance à dire aux patientes, pervers narcissique, rien à faire, fuyez. Par contre, toutes les autres violences. Et d'ailleurs, cette dame nous dit exactement, on peut pas parler de violence si on ne parle pas d'émotion. Et effectivement, la plupart des violences sont liées à une émotion qu'on ne comprend pas, qui est liée émotionnellement à un passé. Et donc, c'est ça qu'on fait avec les hommes violents qui veulent bien venir voir un psychiatre parce qu'ils sont pas tant que ça.
Oui, parce qu'en général, ils vont fuir, on le sait. Les vrais pervers vont échapper.
On les voit pas.
Ou quand on les voit, moi, que je les vois en couple, ça va durer une, deux séances, ils vont échapper. La grande difficulté, ça va être justement que de permettre, quelquefois, on peut essayer d'accrocher la relation et de leur faire comprendre que quelque chose serait possible. Mais la plupart du temps, c'est très difficile.
Voilà. Merci Corinne pour votre témoignage. Julie, vous êtes notre témoin fil rouge ce matin. Comment vous vous en êtes sortie ?
Avec l'aide de ma famille, de mes amis, que je ne voyais plus vraiment, mais que j'ai pu revoir après notre séparation, la bienveillance du policier, une reconnaissance en justice, et aussi et surtout l'aide d'une spécialiste dans une association dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, quelqu'un qui était là pour m'écouter, pour ne pas me juger, pour me comprendre dans toutes mes contradictions, parce que parfois je pouvais lui dire je l'aime, je peux pas le quitter, et ça m'est après, mais j'ai peur, faut que je m'en aille, mais j'ai trop peur et donc je vais rester. Donc toutes ces contradictions-là, elle pouvait l'entendre parce qu'elle n'était pas dans l'affect avec moi, elle n'était pas dans la souffrance, mais dans la compétence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. C'est l'aide familiale et amicale, bien sûr, mais aussi le soutien d'une professionnelle spécialisée avec laquelle on va pouvoir dire toutes ces contradictions, ces sentiments d'impuissance et qui va pouvoir aider à la verbalisation, mais aussi à la sortie de la violence. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est l'écriture. C'était purger mes émotions sur papier parce que ma spécialiste n'était pas là à minuit lorsque j'étais en crise d'insomnie. Et j'ai pu, par l'écriture, remettre des mots sur mon passé, essayer de comprendre qui j'étais parce que j'avais perdu mon identité, retrouver mon estime de moi-même, comprendre en fait la toile d'araignée de la violence conjugale.
Merci beaucoup.
J'étais dedans.
Merci beaucoup Julie, et d'ailleurs votre livre s'appelle J'aimais le diable. Si vous étiez présente au Grenelle des violences conjugales, quelle est à votre avis la décision fondamentale que le gouvernement, que Marlène Schiappa, qui sera l'invitée ce soir de Fabienne Sintès dans le téléphone sonne, quelle décision doit être prise Madame Saboureau.
Alors, je ne sais pas si ça peut être une décision politique, mais moi, j'aimerais qu'on apprenne aux enfants à comprendre leurs émotions et à les stratégies qui font qu'on peut contrôler les émotions, colère, par exemple.
Muriel Salmona.
Alors, moi, là, il y a une situation d'urgence. Il y a 101 femmes qui ont été déjà assassinées depuis le début de l'année. Il faut absolument que tous les professionnels soient en capacité d'évaluer le danger, de poser des questions, d'être formés. Il faut que tous les professionnels susceptibles d'accompagner les victimes soient formés et qu'il y ait plus cette impunité.
Philippe Brenon.
Et puis quelque chose qu'on n'a pas pu dire, c'est que c'est vraiment sociétal. La société sécrète et le fait qu'on voit chaque jour des féminicides, il n'y en a pas trois jours.
Marie-Laure Sunshine.
Et que chacun ouvre les yeux, les collègues de travail, les amis, la famille, les voisins.
Et qu'il y ait une offre de soins.
39-19.
Et une offre de soins.
39-19, c'est le numéro. 39-19, c'est le numéro d'appel si vous subissez des violences conjugales. La journée spéciale se poursuit à 12h30 avec notre ami Philippe Bertrand dans Carnet de campagne, à 13h dans le journal de Bruno Duvic et à 19h20 donc dans le téléphone sonne. Demain, notre thème très différent. Pourquoi fêter son anniversaire?